Racontez-nous des histoires qui commencent mal et qui finissent bien, des histoires de bonheur, de monde meilleur, n'importe quel baratin, des histoires auxquelles on ne croira pas forcément, mais qui nous donneront un peu d'espoir sur ce qui se passera demain. Racontez-nous des histoires, puisqu'on ne peut plus s'entendre sur la vérité, quelle que soit l'actualité, puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer que ceci ou cela, bah c'est une opinion, c'est pas un fait. Quelqu'un pour vous donner son avis, un peu moisi, ou pour relativiser, pour affabuler, pour désinformer. Alors tant qu'à mentir un peu, racontez-nous des histoires, mais des histoires de qualité, s'il vous plaît, avec de vrais personnages, avec des intrigues à foison, avec des péripéties, des rebonds, et des récits, comme le disait mon invité hier, qui soient un tant soit peu désirables. On en a soupé de vos histoires cauchemars, des catastrophes, des dystopies. Imaginez plutôt, dans un monde qui laisse présager le pire, des futurs ensoleillés, des possibles, des pratiques, des projets de vie et de survie, des récits qui reconstruisent le monde et qui réparent le tissu vivant auquel on appartient. Parce que vous le savez, les récits affectent nos vies, parce qu'ils nous aident à comprendre, mais aussi à évoluer et à changer ce qu'on est. Racontez-nous des histoires, de bonnes histoires.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles histoires nous raconte mon invité d'aujourd'hui? En 7 ans, presque autant d'albums et des centaines de titres qui totalisent des millions d'écoutes, il est devenu une figure incontournable du rap hexagonal. Vendredi, il recevait la victoire de l'album le plus streamé pour Julius 2, paru l'année dernière. Bonjour SCH.
Salut Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un grand honneur. Avant toute chose, je me suis demandé qu'est-ce qu'on gagne à raconter des histoires.
Écoute, moi, de base, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, en fait, la narration au travers de la musique. Qui plus est, de la mettre au service de la musique. J'ai trouvé ça cool dès le début, en fait.
Quelle histoire est-ce que vous nous racontez, alors?
Toutes sortes d'histoires. Après, en majeure partie, des histoires que j'aime raconter, des histoires qui... au travers de films que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune, des films de grand banditisme, entre autres, et toute autre chose aussi.
Vous savez, ce qui me fascine, c'est que ce sont des histoires souvent qui laissent l'actualité de côté. Ne pas parler de l'actualité, SCH, quel pari est-ce que c'est pour vous?
C'est le pari de l'intemporel, en vérité. C'est le pari d'être dans un truc où, en final, on peut pas vraiment mettre une époque sur ce qu'on écoute. Et c'est ça que j'aime.
C'est-à-dire une musique qui n'est jamais datée, en fait.
Ouais, on espère. C'est comme ça que je la conçois. Après, est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que ça vieillit moins bien? Je pense que d'un titre à l'autre, c'est discutable, mais dans la manière de le concevoir, c'est comme ça que je vois la chose.
En tout cas, ce sont des questions que vous devez vous poser sans cesse, musicalement. Qu'est-ce qui fait qu'un morceau traverse les époques, triomphe au passage du temps?
Ça, c'est la conception du classique. Personne ne sait quand il a un classique. C'est les années qui le révèlent, en vérité.
Pensez à quel classique, là, par exemple? Quel son, quel morceau qui est intemporel?
Bon, Hier Encore. Voilà, quand j'écoute Hier Encore, c'est un classique de la musique... juste exceptionnel et qui changera jamais au travers des années qui passent.
Ça tient à quoi, la simplicité de la mélodie?
Je pense que ça tient aussi beaucoup à l'interprétation et à l'émotion que tu arrives à transmettre au travers du format, quoi.
Aznavour, avec quelle musique est-ce que vous avez grandi, SCH, vous? Qu'est-ce qu'on écoutait chez vos parents?
On écoutait de la variété italienne, on écoutait pas mal de variété italienne, Toto Cutugno, Lucio Dalla, et j'en passe, Lucio Battisti. On écoutait aussi de la variété française, Joe Dassin. Beaucoup de Joe Dassin, énormément de Joe Dassin. Après,
pas de rap?
Pas énormément de rap jusqu'à mon adolescence, en vérité, pas énormément de rap. J'ai découvert le premier album de 50 Cent, The Massacre, qui est sorti il y a 19 ans peut-être aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous a parlé tout de suite en écoutant cet album?
C'est les drums, je pense, l'aspect frais un petit peu qu'il y avait au travers des productions. Puis ce truc très visuel aussi, en Amérique, quand on voyait les clips déjà il y a 10-15 ans, c'était... Waouh, c'était gros, quoi.
Et puis les histoires qui étaient racontées?
C'était le gangsta rap, en vérité. C'était les débuts du gangsta rap avec 50 et tout ça. Et moi, c'est vraiment des trucs où je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait.
Ça tient à quoi, une histoire bien racontée, tient dans une chanson, SCH, au rythme de la phrase, au choix des mots?
Je pense que le champ lexical, il est important. Enfin, le choix, exactement, le choix des mots. Et puis le fil rouge, en fait, cette espèce de truc invisible qui conduit le son du début à la fin. Et je pense que quand on tient ça, on tient la majeure partie du morceau.
On va les tenir. Vos chansons SCH, les auditeurs de Boomerang les connaissent forcément. Difficile d'échapper à votre couplet, par exemple, dans une bande si bien organisée.
Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Bien sûr. Solide dans la bulle, sur le prado. Shifter pro. Contresens. Ma chérie, tu as contresens. Tout à où tu étais quand je mettais des 7 euros d'essence. Tu veux nous faire la guerre? CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la kale. C'est Marseille, bébé.
C'est ça aussi.
Comme sur les champs, je l'ai pas.
ça. Quand même ça aussi.
Si Dieu veut, le tour de la terre se fera vite. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier lion y est venu vite. Le crime paye, je suis aveuglé, je les vois à travers l'abat-jour. Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocave pour la trêve, beaucoup d'amour, mais je fais la guerre. On prend du fer, s'il y a du fer, y'a des affaires, je fais des affaires. Mon égasca sont si sonnés, y'a des rappeurs à rançonner. Moi je veux voir leur vrai visage, celui qui est pas étalonné.
SCH, vous êtes né à Marseille. Marseille, dans l'histoire du rap français, qu'est-ce que ça représente?
Moi, ça représente une majeure partie de ma jeunesse, où les années Funky Family, IAM, Psychiatre de la Rime, pour moi, c'est une grosse culture, c'est une musique à part aussi, dans sa proposition. Je pense notamment aux tempos qui sont beaucoup plus rapides, qui sont beaucoup plus solaires que le reste, en fait, de ce qui se fait dans le rap français. Et je trouve que c'est un paysage atypique, en fait, du hip-hop en France.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est une ville qui a repris sa place dans le rap français.
Ouais, je pense que Jul est à l'origine de ça. Je pense que le projet Bande Organisée qui unifie les artistes de Marseille a changé la donne sur la décennie qui vient, dans le sens où il y avait une espèce de creux par rapport à la consommation des artistes marseillais. Et ça a tout changé.
Pour vous, intimement, qu'est-ce que c'est cette ville? Qu'est-ce qu'elle représente?
Moi, c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est mes racines, donc c'est difficile de dire autre chose que c'est chez moi, quoi.
C'est un réservoir d'histoire aussi, un réservoir à fiction, ouais. Pour vous? On parlait tout à l'heure de ce que c'est que de raconter des histoires.
L'histoire marseillaise, elle est chargée en moments forts, en moment tumultueux.
En rencontre aussi.
Je peux dire en rencontre. Moi, pour ma musique, c'est vrai que ça m'inspire énormément, mais après, il y a des centaines d'autres choses pour lesquelles ça peut être inspirant, quoi.
Mais je me suis demandé, vos histoires, au fond, de quoi elles naissent? SCH, du réel? De ce qu'on vous raconte? De ce que vous voyez?
Elles naissent un peu de tout, ouais. C'est l'addition de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je vis, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu à la télé, de ce que j'ai lu dans des films qui me ressemblent, que ce à quoi j'aime m'identifier.
Oui, parce que vous vous mettez en scène. Ce que vous racontez dans vos chansons, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction?
Ça, je peux pas vraiment dire, sinon tout perd de sa magie. Si vous voulez, tout perdrait sa magie, mais j'essaye de rendre un petit peu invisible la barrière entre justement la fiction et la réalité pour que...
Si on prend le personnage de Julius, ouais. Par exemple, qui est donc le titre de ce dernier album et qu'on retrouvait déjà sur l'un de vos précédents albums, quel personnage est-ce que c'est, Julius?
Je pense que c'est un personnage de film de voyou, et il a des traits de caractère qui me ressemblent énormément, parce que c'est trop difficile de dissocier totalement les deux personnages. Alors du coup, je me retrouve des fois un peu dans lui, et voilà, après il en ressort tout ce que j'aime voir dans ce genre de film, dans ce genre de livre, etc.
Vous diriez que la parole est plus libre quand on est un personnage?
Complètement, ouais. Je suis convaincu que si moi, SCH, je portais le discours de Julius via SCH, ce serait interprété d'une toute autre façon.
Celle qui est libre dans cette émission, peut-être un peu trop, vous la connaissez, SCH, c'est la culture et son actualité qui part décidément dans tous les sens. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 15 février?
C'est recommencer l'histoire, c'est reconstruire la mémoire et c'est ça ce que le tableau représente.
Rend les œuvres après l'Assemblée nationale le 25 janvier dernier. Le Sénat s'apprête à entériner aujourd'hui par un vote la restitution d'une quinzaine d'œuvres d'art spoliées par les nazis à des familles juives. Parmi celles-ci, des toiles de Marc Chagall, Gustav Klimt ou Marc Utriot conservées jusqu'à présent dans les collections nationales, d'où la nécessité d'un vote au Parlement pour les restituer. Who you gonna call? Fini de rire, le cinéaste canadien Ivan Reitman s'est éteint, a-t-on appris hier. Roi de la comédie populaire des années 80, il était notamment le réalisateur des films cultes SOS Fantôme, Ghostbusters 1 et 2, qui avaient marqué toute une génération et offert à Bill Murray son premier rôle grand public. Par la suite, il avait aussi signé des longs métrages à succès comme L'Irrésistible Jumeau ou Un flic à la maternelle avec un Arnold Schwarzenegger à contre-emploi. Ivan Reitman avait 75 ans. Ah, hi. Ce week-end en Nouvelle-Zélande, sur décision du Parlement, les autorités ont tenté de disperser les manifestants anti-vax et anti-pass en les assommant de musique répétitive, pas vraiment du Steve Reich, mais la Macarena, Baby Shark ou Mandy de Manilow, sans succès, hein, puisque les manifestants SCH ont répondu en se mettant à danser sous la pluie et même à diffuser leur tube favori sur leur propre sono. Hey, Macarena, hey. Le rappeur SCH, victoire de l'album le plus streamé vendredi dernier, invité de Boomerang ce matin pour parler de récits, c'est intéressant. Quand est-ce que l'écriture est entrée dans votre vie? Vous vous souvenez?
Je me souviens déjà qu'à l'école, j'étais super appliqué sur le français, en fait. J'étais super appliqué sur l'orthographe, sur la grammaire et tout ça. C'est toujours des choses qui m'ont plu. Et dès mes premières rédacs, je me suis trouvé un espèce de kiff pour l'écriture. Donc ça a commencé très tôt.
Vous êtes mis à écrire chez vous aussi?
Je me suis mis à écrire chez moi, bêtement, sans, comme tout jeune rookie qui se respecte, j'ai commencé par écrire des choses qui ne voulaient strictement rien dire.
C'est-à-dire, elle parlait de quoi, vos histoires?
De choses qui ne veulent strictement rien dire. Et puis après, j'ai peaufiné un peu ça, et puis de fil en aiguille, voilà, je suis tombé sur des films qui m'ont traumatisé, des disques qui m'ont traumatisé, et ça m'a conduit à trouver cette espèce de ligne de conduite pour ma musique à moi.
Si je vous dis Al Pacino, Scarface, Brian De Palma, vous me dites quoi?
Je dis que bon nombre de jeunes de ma génération ont gâché leur vie en voyant ces films.
Gâché leur vie?
Ouais, jusque-là. Ouais, je pense que c'est des bonnes fictions qui, malheureusement, ont conduit bon nombre de jeunes dans le n'importe quoi.
Vous pensez à quelle scène, là, tout de suite?
Ouais, je pense à Tony Montana, Tu veux jouer à la vache? C'est des répliques incroyables, mais... Dans la globalité de ces films, qui sont des chefs-d'œuvre malgré tout, il y a une espèce de truc qui s'est produit chez les jeunes un peu influençables, quoi.
Tu veux jouer avec... Ok, amène-toi. Tu veux en goûter du gâteau. Et t'en pérer.
La boîte s'arrange.
On va les faire joujou. Ok, on va faire joujou. Je vous attends. Ok, vous voulez jouer à la vache? Ok. Elle va cracher ma vieille Florine! Ok! Vous jouez à la vache? Ok!
SCH, au fond, qu'est-ce qui vous attend ébloui dans Scarface, dans le personnage joué par Al Pacino, Tony Montana, qui est doublé par José Luchioni et que vous citez?
En fait, je pense que tous ces films, on est toujours plus intrigué par les gens qui ont fait du mal que par les gens qui ont fait du bien. Je pense notamment aux séries comme, je sais pas, Narcos. On a plus tendance à regarder Narcos qu'à regarder le documentaire sur l'abbé Pierre. C'est malheureux, mais c'est un fait. Et donc, toute cette fascination autour de ces mecs dans les films, ça naît de leur charisme, en vérité.
Oui, et puis il y a une histoire dans le film de gangster, ouais, qui est quand même l'histoire d'une réussite, d'une success story.
L'ascension sociale.
Ça raconte comment on s'en sort aussi,
voilà,
tout simplement.
L'ascension sociale, ce à quoi rêvent d'accéder tous les jeunes issus de milieux un petit peu... défavorisé, pour pas aller plus loin, mais c'est vrai que l'ascension sociale, ça reste un moteur hyper présent dans tous ces films.
Et c'est comme ça que vous utilisez cette voix, hein, en ouverture de votre album Julius II. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, en fait, cette histoire, au tout début? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter?
Elle raconte la suite du premier volet, et en vérité, c'est l'histoire d'un homme qui a évolué dans un certain milieu, qui est celui de Marseille, et qui a navigué entre l'Italie, la Sicile et la Méditerranée, et avec tout ce que ça implique.
Oui, parce qu'une partie du film de gangster, effectivement, du genre du film de gangster, est liée au territoire de l'Italie. L'Italie qui est pour vous une terre mythique, fantasmée, à laquelle vous faites référence, dans le premier volet de Julius, mais aussi dans un titre comme Gomorra, sur votre premier disque A7, l'Italie de la mafia. À quelles ambiances, à quels sons est-ce que vous l'associez musicalement?
Je l'associerai au parrain, aux trois volets. Plus le premier, moi j'ai une grande affection pour le premier, avec Marlon Brando, Vito Corleone, tous ces personnages. Pour moi, c'est le summum de ce que doit représenter la musique que je propose dans Julius.
Et comment ça se traduit justement musicalement? Par quels instruments? Par quelle production?
Beaucoup de mandolines. En finale, on a pas mal de mandolines, de guitares, de tout ce qui se rapproche un petit peu à la Méditerranée, en vérité, des sonorités très méditerranéennes.
Vous avez fait appel à qui pour ça?
J'ai fait appel à tout un tas de très prometteurs beatmakers, de grands producteurs, et le pari, en vérité, c'est de pas dénaturer ce qu'on amène sur le volume 1 et de garder cette empreinte très méditerranée, pour revenir encore une fois dessus.
Je me suis demandé, pour vous, SCH, c'est quoi une bonne instru?
Waouh! Une bonne instru, moi je marche beaucoup au frisson, en vérité, je retrousse mes manches quand j'écoute des prods. Et
littéralement.
Si ça marche, en général, c'est que j'aime ça.
Ça marche souvent?
Ça marche rarement, mais j'en reçois énormément, donc ça s'équilibre. Ouais.
Vous voulez dire que non, c'est ce que vous dites le plus souvent?
Ouais, quand je fais des écoutes de prod, on garde peut-être 3 ou 4% de ce qu'on écoute sur la journée, quoi. Mais bon, après c'est le jeu, on peut pas tout le temps tomber sur... Sinon, on aurait des milliers de sons.
Je vais vous dire ce qui est une bonne prod, moi.
Ah, ça, parler. Ça, oui. D'un ça, c'est frisson immédiat.
De rythme, mais aussi de mots, juste après Loup Noir, extrait de votre album Julius II, France Inter, SCH, Boomerang, évidemment.
Les sourires et les faux semblants, et quelques gouttes ont suffi à l'élixir pour être mortel, que des casses noires dans le cortège. Des trois pièces et des longs impairs qui cachent les guitares, des refs aux mitards, les faits d'hiver en hiver. J'ai fait 100 000 avant le mi-père. Je m'entraîne à sourire devant la glace, je m'entraîne à souffrir sans remède. La petite maison est en ruine, quand la faim pense, le cœur est en grève. La vie c'est mener les bons choix, l'image vient sans même une esquisse. Dans le dos les chlasses traversent la Redskins, la trahison des gens qu'on estime. J'ai pas vu père fermer les paupières. Tête dans le guidon, c'était le frigo. Une chaîne de vie à se lever aux aurores. J'aurais jamais su comment faire. Non, j'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ce qu'on enferme. Et quand les yeux se ferment et que tout est noir, quand les mots se perdent, tu veux tuer un homme, prends du sky et des faux espoirs. Et quand les mômes se perdent dans les sinueux couloirs des enfers, on sera de retour 2 minutes avant que les revolvers leur jouent du tonnerre. Ouais, l'orage est parti, ouais, le soleil. Mon deuil n'est pas fait, ouais, mon sommeil. Je parle de vraies choses qu'on vit ici, de vraies flammes qu'on a tenues, d'un vrai sang qui s'est versé, de la seule femme qui m'a bercé, de vrais potes qu'on a perdus. De vrais potes qu'on a perdus. Des pensées noires et des nuits blanches, des âmes, des enfants terribles. Le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir en terrine. Des gens m'ont trahi, j'ai la nausée. Je dépose un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Énumérer ce que j'y ai laissé, prendre un maximum pour papa. Comme si j'allais le faire renaître entre les morts comme un dieu grec. Tous les bleus que j'ai autour du cœur, tous ces billets froissés dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plomb, mais trop jeune pour vivre tout ça. Des portes salines dans la nuit, des portes flingues tournent dans la ville. Je sens à éponger dans la cuisine. Billets qui flottent dans la piscine. L'Italie, l'Italie. Corleone sous Michael. Marie Curie dans la comtesse. Là où le ventre est le prompteur. La fin justifie la violence. Là où la violence est la réponse. Là où la violence est le moteur. Là où la violence est le docteur. Vivons cachés, vivons gantés. Faisons le tour du monde entier. Avant qu'une balle nous arrête. J'y vais, L-I-V-S.
France Inter. Boomerang.
Loup Noir, en vrai, il est beaucoup moins Loup Noir que Cabri, moi je vous le dis. Big Lebowski, Sébastien Tellier sur les bords, c'est un dandy, hein, le cheveu lisse et long, la dent saine, moqueuse, une carrure à costard, il manque plus que le cigare, tout en blouson noir et blanc, pantalon en velours, le rappeur SCH, invité de Boomerang, pour parler d'écriture, de récit, on le disait dans le morceau qu'on vient d'entendre, Loup Noir, vous évoquez l'air de rien, la mort de votre père, ce père dont vous n'avez pas pu fermer les paupières. C'est beau, vous parliez déjà de lui dans le précédent album Rooftop. Quel père est-ce que vous avez eu?
Je pense, j'ai eu un père comme tous les jeunes de ma génération et de ma classe sociale, sans rentrer dans le cliché, mais voilà, c'était un travailleur, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, que je voyais pas énormément et avec qui j'avais des rapports assez pudiques de père à fils, quoi, mais que j'ai toujours aimé profondément et que je respectais et que je voyais vraiment comme le plus charismatique des hommes sur Terre.
Faire son deuil, au fond, ça tient à quoi?
Ça tient à vivre avec, je pense.
C'est-à-dire qu'on le fait pas?
Non, on le fait jamais vraiment, je pense qu'on le fait jamais vraiment. Après, on apprend à continuer à vivre un quotidien normal avec, quoi.
Et dans quelle mesure la musique, l'écriture, ça participe de ce deuil, justement?
Je pense que ça me nourrit émotionnellement, en fait. Ça me nourrit beaucoup émotionnellement, dans le sens où, comme tout le monde, on a nos moments de blues où on pense à des choses, à des moments de vie, etc.
On peut le raconter, on peut l'exprimer.
Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à transformer ça en bonne énergie. Et du coup, je remercie ces moments tragiques, des fois, de la vie qui nous font malgré tout avancer, nous, dans nos chemins.
Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi à ces âges?
Écoute, j'étais pas dans la famille Adams. J'ai une famille normale de deux parents qui se sont après séparés. Quand je devais avoir 10-12 ans, et puis après j'ai vécu dans un foyer monoparental, comme on dit, avec ma maman, qui faisait des pieds et des mains pour que mes chaussures soient pas trouées et que je fasse pas n'importe quoi de mes 10 doigts.
Ils vous ont encouragé dans la musique ?
Non, ils ont pas, enfin, mon père, moi, il fallait pas lui parler de rap. C'était une sous-culture pour le daron, mais ça a été dur de dire à la maman, je vais faire de la musique et t'inquiète pas.
Mais il a fini par reconnaître que c'était pas...
Après, quand les années sont passées, qu'il s'est aperçu que effectivement ça prenait et tout ça, il était content pour moi, il était fier et voilà, mais bon, après, c'était pas sa musique de prédilection, ça. Je pourrais jamais lui en vouloir et j'aimais énormément ses disques à lui, donc.
Rappelle, vous avez dû être drôlement touché quand vous êtes rendu compte qu'il était lui-même touché.
Ouais, ça m'a fait plaisir en final, parce que pour que mon père aime, puisse entendre ne serait-ce que du rap, ça aurait été un combat.
Comment ça a commencé, en fait, SCH pour vous? Comment vous vous êtes lancé? Vous vous souvenez?
Ouais, je me souviens, j'avais une espèce de petit PC que nous donnait le conseil régional à l'époque, au collège. Et on avait un petit logiciel qui s'appelait Audacity sur ces fameux PC. C'est de là que tout a commencé. En vérité, j'ai essayé d'enregistrer ma voix avec une espèce de kit main libre pour les smartphones. Et voilà, j'écrivais comme je vous ai dit précédemment des petits bouts de phrases qui voulaient rien dire. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des jeunes qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient 5-6 ans de plus que moi et qui connaissaient déjà le milieu des studios d'enregistrement, tout ça, qui m'ont pris par la main, qui m'ont dit « Viens, il faut que tu vois ça, comment ça se passe, etc. » et tout ça. Et j'y ai pris goût très rapidement, en fait.
Ça fait des années maintenant, avec le recul. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous en arriviez là où vous en êtes ?
Il a fallu plein de choses. Il a fallu que je fasse pas mal de sacrifices. Il a fallu que je rencontre des gens qui avaient une vision pour moi que j'avais aussi, tu vois. Enfin, je pense que... Il a fallu tout un tas de choses qui m'accompagnaient un petit peu dans ce long chemin vers l'ascension.
Il a fallu de la rage aussi, la rage dont vous parlez dans un titre de Julius II qui s'appelle Tempête.
Tout à fait. J'aime beaucoup ce morceau. J'aime énormément ce morceau. Je pense que c'est un moteur aussi. La rage, l'envie de voir cette ascension de ses propres yeux et de la vivre.
Ça venait d'où, en fait, cette rage? Qu'est-ce qui l'alimentait?
C'est une revanche un petit peu sur ma jeunesse. J'ai jamais réellement manqué de rien, mais j'avais besoin de davantage de choses.
Mais quand on a réussi, est-ce qu'on arrive à la garder, cette rage?
Je pense que c'est possible. Après, je pense qu'il faut jamais s'asseoir sur ses acquis. En fait, il faut essayer de toujours se dire qu'il y a des choses plus grandes à aller chercher et ça reste un bon moteur.
Justement, SCH, qu'est-ce que c'est, une zone à danger?
Une zone à danger, c'est une zone dans laquelle on n'est pas en confort. Ça peut s'interpréter par le biais des coins là où on a grandi, mais aussi artistiquement, sortir de sa zone de confort et sortir de ce qu'on sait faire purement et s'envoyer dans des formats plus pointus ou plus spé, etc.
Zone à danger, c'est le titre que vous allez nous proposer ce matin, accompagné au piano par Robin, qui vient de nous rejoindre dans le studio. C'est un titre où vous dites que vous êtes né dans l'incendie. Quand on est né dans l'incendie, comment on fait pour pas se brûler?
On met des tenues hydrofugées. On essaye. Non, mais après, voilà, c'est l'image des géographies dans lesquelles évoluent bon nombre de jeunes. Et c'est bien de pouvoir verbaliser certaines de ces choses qui s'y vivent, quoi.
Précisément, à quoi est-il arrivé que vous vous brûliez?
On se brûle tout le temps dans la vie, je pense. On se brûle tout le temps. Moi, les premières fois où je me suis brûlé, je pense qu'à l'école, je me suis brûlé. J'étais plus intéressé par ce qui se passait devant l'école que dedans. Et ça, c'est les premières petites brûlures qui conduisent à des brûlures plus conséquentes avec le temps qui passe.
Zone à danger, SCH, on vous écoute dans Boomerang. C'est à vous.
Thank you.
Sentence tombe, refit repart. L'amour tue ma neutralité. Les feuilles tombées meurent sur le trottoir. L'automne reviendra tuer l'été. Je suis le S-God, the 19, viens me faire. J'attends le merci pour l'ascenseur. Quand les mensonges ont l'air sincères, je monte à pied comme la vérité. On s'aime, on se quitte, sa mère est stable. Moi j'ai pas grandi sur un pied. Les parents qui ont jamais l'air heureux, je crois que c'est ce qui m'a rendu nerveux. Des fois j'insiste, c'est pour ton bien si tu m'écoutes pas. Reviens pas demander des conseils quand tu décides de te réveiller. Les années passent, nos vies défilent comme un japo. J'aime pas les scies car si je m'y mets, je vais pas réussir comme je le devrais. J'ai des refs sur qui je peux compter. J'ai pas honte de dire quand j'ai tort. J'ai pas honte de dire qu'elle comptait. J'ai pas honte de dire que je mentais, hein. Oh, j'ai fait des trucs insensés. Tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. J'ai fait des trucs insensés juste pour qu'on s'en sorte. Je voulais qu'on avance, ouais. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. Y'en a qui ont changé de route, y'en a qui ont fait banqueroute, mais qu'ils ont tout perdu. J'te pardonne pas, j'suis pas le bon Dieu. T'es arrogant et prétentieux. J'fais des euros et des envieux, mec. Hein? On apprend de la vie sur le tas. On tombe plein de fois jusqu'à celle où on se relève pas. J'ai tellement de trucs à faire, mon vieux, qu'une seule suffirait pas. Je crains pas la route, je crains pas les bleus, je crains pas mes doutes. Je laisse un peu de santé à chaque titre. À peine sorti, ils veulent la suite. Je fais pour ça ou pour autre chose, l'avenir dira. La méchanceté qu'il y a sur le web, la violence et le sang dans ma rue. Le manque d'oseille qu'il y a dans nos wesh. Y'a que pour la merde qu'on fait la une. J'ai fait des trucs insensés, j'ai pas honte de devenir adulte, ouais. Oh, j'ai fait des trucs insensés. Tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. J'ai fait des trucs insensés juste pour qu'on s'en sorte. J'voulais qu'on avance, ouais. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. Zones à danger.
Merci.
Merci.
SCH, merci d'être venu faire un tour.
Merci à vous.
Dans cette émission, félicitations pour cette victoire. Décerné à votre album Julius II. Merci aussi à Rodolphe Malo et Arnaud Caillet à la technique ce matin, à Robin, qui était avec nous au piano. Je précise, SCH, que vous serez en tournée à partir du mois de mai dans toute la France, à partir du 6 à Amnéville avec un passage par l'Accor Hôtel Arena le 24 mai et par le Vélodrome de Marseille surtout le 22 juillet. Bonjour. Ah ouais. À l'IRVI.